Lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Nous allons revenir sur cette grande réalité sur laquelle il faut toujours revenir. Jean, chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles, ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Relisons verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance est une nécessité absolue pour tout homme. Tout homme, sans exception. Voilà ce qu'affirme Jésus dans ce texte, qui est le texte fondateur du christianisme authentique. Il faut quand même se dire ça. Il y a, dans beaucoup de gens, un désir de changer. Désir de changer de vie, qui peut se présenter à certains moments. Ben, les gens, ils ont envie de changer de métier, ils ont envie de changer d'environnement, ils ont envie de déménager, ils ont envie, je ne sais pas, il y en a veulent s'engager dans la Légion, il y en a d'autres, ils vont garder les chèvres en Lozère, je ne sais pas moi, hein, voilà. Ou alors, il y en a, ils veulent refaire leur vie avec un autre conjoint. Hein, ils peuvent ressentir ce besoin à 16 ans ou à 75, et ils ont l'impression que s'ils ne le font pas, ben leur vie va devenir médiocre, terne, insipide, et il y a des modes très différents d'exprimer cette idée, ce désir de changement. C'est une conversion quelque part, hein. C'est une conversion, un désir profond de changer. Ben, c'est une sorte de drame par lequel les gens veulent donner du feu, de l'intensité à leur existence, dirais-je, hein. Et on peut faire la comparaison avec le désir de tomber amoureux, hein. On a l'impression que si on poursuit sa vie sans tomber amoureux, on passe à côté vraiment d'une expérience qui va donner à sa vie un sens, une densité unique. Voilà, les gens sont comme ça. Et comment est-ce que cette question de conversion, c'est quelque chose qu'il faut considérer parce que même dans le monde, même dans diverses religions, on connaît le phénomène des conversions. On connaît partout, hein. Même en politique, on connaît le phénomène des conversions. Donc, la structure et le déroulement de conversion, même si les modes sont différents, sont plus ou moins identiques. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez quelqu'un qui a une prise de conscience, une révélation à l'occasion d'un moment, d'un événement décisif de l'existence. Hein, et puis à ce moment-là, ils vont renier peut-être certains aspects du passé, certaines façons de vivre du passé, qui étaient considérées jusque-là comme très importants, et ils vont accepter, je dirais, on peut appeler ça une éthique nouvelle, une règle de vie nouvelle, une règle de conduite morale nouvelle, et pour que ça puisse durer, ben, ils vont s'attacher à une communauté ou peut-être à un parti, je ne sais pas. Et ainsi, on peut trouver des conversions chez les musulmans, on peut en trouver chez les catholiques, on peut en trouver chez les témoins de Jéhovah, on peut en trouver chez les mormons, chez les bouddhistes, et même en politique. Hein. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui s'appelait Ernesto Guevara, hein, qui est devenu le Che Guevara. Hein, donc, rappelez-vous quand même que c'était un jeune bourgeois qui était promis à une carrière de médecin, qui était fiancé à la fille d'un riche propriétaire terrien. Et au cours d'un voyage qui l'a conduit d'Argentine au Venezuela, il a découvert la misère, il a découvert l'injustice. Et il y a un film qui s'appelle Carnet de voyage qui raconte ses rencontres et le montre qui, par une sorte de baptême, traverse à la nage un fleuve d'Amazonie pour quitter la rive des bien portants et pour gagner celle des pauvres, celle des lépreux, celle des exclus. Et à la fin de ce voyage, un nouvel être est né, ouais, une conversion. Notre genre, Simone Weil, donc là aussi, c'est une femme célèbre, française, donc, et lors d'un voyage en Portugal, tout à coup, elle est tombée en arrêt devant le spectacle d'un groupe de femmes de pêcheurs sur une plage qui était vêtue de noir, qui était digne, qui était pauvre, et elles avancent en procession en chantant un cantique infiniment triste et beau, et Simone Weil comprend que le christianisme, ben, c'est la religion des esclaves, et qu'il sera sa foi, puisqu'elle se compte parmi eux. Voilà. Hein. Donc, et ainsi, ce genre de conversion, ben, ça se concrétise par le fait de se séparer de son ancienne vie, hein, et de faire une sorte de sacrifice de son ancienne vie sur l'autel de la vie nouvelle à laquelle on aspire. Et le deuxième trait qui caractérise ce genre de conversion, c'est un genre d'illumination, un genre de prise de conscience, la découverte d'une vérité. En quelque sorte, jusque-là, on peut se convertir, mais sans être vraiment chrétien, sans être sauvé. C'est parfaitement possible. Parce que tout ça, c'est le versant humain de la question, dirais-je. Hein. Et ce versant est parfaitement insuffisant s'il n'est pas accompagné d'une œuvre de l'esprit. Et remarquez bien que c'est l'insistance majeure de Jésus dans notre texte, surtout verset 8 que je relis. « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire », est-il dit dans Jean 6, verset 44. Ça insiste sur la part absolument nécessaire de l'action de Dieu. Dans Romains 9, verset 16, il est marqué encore « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. » Et dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, il est rajouté « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Hein, donc voilà. Voilà. Et je vais vous donner un exemple d'une œuvre de nouvelle naissance par le Saint-Esprit dont tous les points sont intéressants à relever pour nous. Je vais vous donner ce témoignage-là. C'était au Brésil, il y a un certain nombre d'années. Là, il y avait un jeune homme qui s'appelait Pedro, qui traînait sa misérable existence en prison, une prison qui s'appelait le Fort Goya. Et il avait fait déjà 10 ans, hein, et seuls quelques travaux de cordonnerie rompaient un peu la monotonie de la prison. Avec ce petit gain, on lui donnait parfois du sucre, hein, qui était une faible consolation dans ce régime de fer. Lors de sa condamnation, il était mineur, et il lui restait encore 20 années à faire. Hein, donc, ces années se dressaient devant lui comme un spectre d'épouvante. Si seulement il avait eu un livre. Voilà. Hein, donc, et puis il se disait avec désespoir, je ne sais pourtant pas lire, mais si seulement j'en avais un, je pourrais peut-être essayer d'apprendre par moi-même. Sans cela, c'est trop long. Je vais devenir fou, comme d'autres autour de moi. J'en ai bien peur. Et un jour, quelqu'un de l'extérieur a été annoncé, quelqu'un qui avait obtenu une autorisation très spéciale de visiter les prisonniers, bref, l'événement, hein, presque trop beau pour être vrai, surtout que cet Anglais venait avec des livres. Frédéric Glass offrait en effet des dépliants en portugais, et Pedro, ayant bien recompté les cruzeiros qui lui restaient, il a trouvé qu'il avait juste assez d'argent pour s'acheter une Bible. Voilà. Donc, et voilà notre petit cordonnier qui feuillette toutes ces pages où il ne distingue d'abord ni un A ni un B. Hein, et dans la pénombre de sa cellule, en quêtant des renseignements auprès des uns, auprès des autres, il va s'obstiner dans ce déchiffrage ardu du livre qu'il avait tant désiré. Et à force de persévérance, il va commencer à épeler, puis à lire à mi-voix. Et dès lors, jour après jour, il se penche avec avidité sur ces pages, ces pages dont la beauté vraiment l'émerveille. Et il se tient sur le seuil d'un monde tout neuf. Et voilà qu'à cette lumière, eh bien, le sombre désespoir du pénitencier s'estompe. Il découvre que c'est avec justice que le tribunal lui a infligé la lourde peine de 30 ans qu'il doit purger. Mais il se voit aussi condamné comme pécheur. par le Dieu saint, par le Dieu juste, qui lui parle maintenant par son livre. Et quelle joie d'apprendre que quelqu'un de très bon a déjà payé pour lui, Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et avec une foi d'enfant, ce jeune prisonnier reçoit ce pardon qui libère. Il reçoit cette grâce offerte et dans la noirceur de son existence, enfermé presque à perpétuité entre ces murs lugubres, voilà qu'une douce lumière a jailli. Au lieu de la révolte, c'est la paix dans son cœur. Et une joie inconnue, inonde ce jeune homme qui est penché sur le livre des livres. Le Saint-Esprit répond à sa prière et lui ouvre l'intelligence. Entre-temps, le missionnaire à cheval, est revenu à Goya et plusieurs soldats, c'est parti des gardiens, plusieurs soldats se sont convertis. Et un jour, en prenant leur service dans le pénitencier, ils voient un homme qui lit. Alors que lit-il ? Ils en parlent avec M. Glass. C'est une Bible et ce détenu semble vraiment chrétien, différent des autres par son comportement, disent-ils. Est-ce vrai ? S'exclame le missionnaire. Il y a 5 ans, j'ai vendu une Bible à un jeune en cellule. Imaginez le sourire du jeune prisonnier, donc, au guichet grillagé de cette même cellule depuis 15 ans. Il végétait avec une douzaine de détenus. Pedro, à l'appel de son nom, il s'est avancé vers la petite fenêtre, si ému qu'il pouvait à peine parler. La lumière tombait en plein sur le pâle visage, si ouvert à présent, et tenait contre lui un gros livre, tout dépenaillé, tout trituré en tous sens, comme il avait été donc dans ses mains de forçat. Et il a dit « Je l'aime », a-t-il dit à cet homme qui venait le voir. Mais passant la main à travers les lourds barreaux de fer, Frédéric Glass le salue avec affection. « Toi et moi, nous sommes les enfants chéris du même père », lui dit-il. Hein. Et cependant, entouré de blasphémateurs endurcis comme il l'était, Pedro avait besoin que le Saint-Esprit lui donne la victoire sur le péché. Hein. Donc aussi le missionnaire le visitait-il aussi souvent que possible, jusqu'au moment où il a été rappelé à Sao Paulo. Et donc, la veille de son départ, il a trouvé le jeune homme tout triste. « Quel dommage que vous partiez maintenant. J'espérais que le jour viendrait où vous pourriez enfin me baptiser. » Ah, voilà. Et à ce moment-là, donc, en plein préparatif de départ, le missionnaire reçoit la visite précipitée d'un soldat du fort, hein, de ceux qui s'étaient convertis, et qui apporte un mot de Pedro, « Faites l'impossible, vous trouvez demain à 6 heures au bord de la rivière. C'est pour mon baptême. En effet, après que vous m'ayez quitté, que j'ai prié, le geôlier est entré dans la cellule afin de désigner 2 hommes pour transporter à la rivière les ordures de la prison, et moi, Pedro, je suis l'un d'eux. » Et le lendemain matin, la petite escorte de gardiens est sortie de la prison, s'est dirigée vers le lieu où le pasteur attendait. Et le Seigneur avait miraculeusement prévu chaque détail, car 4 des gardes de l'escorte étaient des hommes convertis et donc tout disposés à s'associer de cœur à l'acte d'obéissance de leur nouveau frère dans la foi. Et après cette cérémonie toute simple, c'est radieux que Pedro a réintégré sa cellule, envisageant ses prochaines années avec une confiance nouvelle, parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui. Hein. Et dans cette forteresse de tous les vices, de toutes les révoltes, à partir de ce jour, la conduite de Pedro a été un tel témoignage que l'atmosphère a changé, et ça au point que plusieurs autres condamnés ont été gagnés à l'Évangile. Et la direction du pénitencier a même fini par s'intéresser à ce cordonnier évangéliste, entre guillemets, donc, et elle l'a autorisé à transporter son matériel un petit peu à l'écart dans l'ancienne église de la prison. Et enfin, son jugement a été révisé, ce qui lui a valu une importante réduction de peine. Sorti de prison, il a décidé de ne pas quitter Goya. Hein, donc, s'étant installé avec son échoppe, Pedro glorifia le Seigneur par sa conduite exemplaire, devenant ainsi au long des jours une colonne dans l'église pionnière de la Grande Forêt. Voilà, hein, donc, et si j'aime beaucoup ce témoignage, c'est parce que nous y avons vraiment tous les ingrédients d'une véritable conversion, d'une nouvelle naissance véritable, d'une conversion selon Dieu. Déjà, vous avez au départ ce désir profond de changement, non seulement de la situation, mais de changement aussi en lui. Ensuite, vous avez la réception du message de la parole de Dieu qui se fait progressivement dans son cas. Hein, il n'a pas eu la révélation d'un flash en une nuit, hein, ça n'a pas été comme ça. Hein. Ça peut être le cas éventuellement, mais en tout cas, pour lui, ça a nécessité de la persévérance. Hein, et ça, c'est une grande valeur. Et puis cette révélation donc va changer sa vie. L'action du Saint-Esprit va le faire naître de nouveau, nous le voyons bien. Et le voilà qui reçoit la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça produit un changement radical de comportement, de caractère, et je dirais encore plus miraculeux, étant donné le contexte dans lequel il se trouvait plongé tous les jours. Et puis, vous avez eu aussi une preuve de cette nouvelle naissance, c'est le désir d'obéir à la parole de Dieu, au travers, par exemple, de l'obéissance du baptême, et puis de tout acte d'obéissance dans la vie de tous les jours. Et puis, bien sûr, le miracle de Dieu aussi, hein, parce que s'il n'y a pas le miracle de Dieu, vous savez, là, dans ce cas, le miracle a été évident pour le baptême, mais c'était aussi un encouragement, une garantie que Dieu pouvait agir pour toutes les situations de vie après. Hein, donc, et puis ensuite, et bien sûr, la preuve de cette nouvelle naissance, ça a été sa marche avec le Seigneur dans la fidélité, la persévérance, le service, le témoignage, jour après jour. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du miracle, l'importance des miracles dans la question de la nouvelle naissance. Rappelons-nous que c'est ce qui avait attiré Nicodème à Jésus, hein, comme il le disait lui-même dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, au verset 2. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. » Si Dieu n'est avec lui. Et c'est pour ça que l'intervention de Dieu est absolument nécessaire, absolument indispensable pour qu'il n'y ait pas seulement une conversion humaine, mais qu'il y ait une nouvelle naissance, voyez-vous. Hein ? Et la conversion, la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui nécessite notre part, mais qui nécessite absolument aussi la part de Dieu, la part du Saint-Esprit. Donc, il s'agit vraiment là-dedans d'un miracle, et puis je dirais non seulement d'un miracle, mais de toute une série de miracles, en fait. Hein, donc, qui nécessite qu'on se tourne vers le Seigneur, qui nécessite qu'on s'attende à lui, et surtout qu'ensuite, on demeure en lui. Et maintenant, je voudrais encore vous donner une des plus belles illustrations qu'il puisse y avoir pour expliquer ça. Et ça se trouve dans un des ouvrages de Clive Staple-Lewis, donc les Chroniques de Narnia. Les Chroniques de Narnia, c'est une histoire pour tous les enfants et pour tous les adultes intelligents. Voilà. Donc, et c'est une très très belle histoire. Et dans ce grand récit que vous avez, c'est en 7 volumes, hein, ce n'est pas une petite affaire. Mais il est question à un moment d'un certain Eustace Scrub, qui est véritablement un caractère impossible, qui est vraiment quelqu'un d'insupportable. Hein. Un garçon au caractère difficile, égocentrique, égoïste, désagréable vis-à-vis des autres, difficile à vivre et tout. Et puis voilà, donc je vous passe les détails de qu'il y avait avant, mais enfin, dans la situation, ils sont sur un navire, c'est une histoire. Hein. Donc, ils arrivent sur une île déserte et inconnue. Et alors, les responsables du navire répartissent les tâches pour réparer les avaries, parce qu'il y a eu une tempête auparavant, une grande tempête, pour réapprovisionner, donc, etc. Et Eustace, lui, s'esquive hein, pour échapper aux corvées et se reposer tranquillement pendant que les autres travaillent. Voilà, donc, la mentalité. Mais il se perd. Il se perd dans l'île. Et puis finalement, il finit par se retrouver dans une vallée sombre. Et dans cette vallée sombre, il y a une grotte. Et dans cette grotte, il y a un dragon qui vient de mourir. Un dragon qui vient de mourir. Et il y a un trésor aussi. Le trésor du dragon. Alors, il échafaude toutes sortes de plans égoïstes, pernicieux. Et puis, il s'endort. Et quand il se réveille, il est devenu un dragon. Parce que si vous ne le savez pas, hein, eh bien, quand vous passez une nuit dans la caverne d'un dragon et que vous dormez là en ayant des pensées dragonesques, eh bien, vous vous réveillez le matin transformé en dragon. C'est comme ça, la réalité. Voilà, donc, et au début, donc, il est tout content. Il se dit, ah, je suis un dragon, je suis puissant, je peux cracher du feu, je peux voler, etc. Voilà, mais au bout d'un moment, il se retrouve malheureux, déjà parce qu'il est tout seul, hein. Déjà, il est tout seul, parce qu'évidemment, hein, on ne va pas chercher ce genre de compagnie. Hein. Donc, et puis maintenant, il commence à réaliser plein de choses en même temps. Il commence à réaliser que les autres étaient finalement beaucoup plus gentils que ce qu'il pensait, et que lui était beaucoup plus méchant que ce qu'il pensait. Hein. Puis que les autres, puis il a envie de réparer aussi. Il a envie de faire ce qu'il peut pour se faire accepter. Alors, pensez donc. Au début, les autres, ils ont peur du dragon. Puis finalement, après, bon, je vous dis pas, je vous passe sur les choses. Ils finissent par le reconnaître. Ils surmontent leurs craintes malgré les apparences. Alors vraiment, il fait ce qu'il peut pour se faire accepter, pour rendre service. Il fait des baptêmes de l'air, hein, voilà. Il transporte un jour un grand tronc de pain pour remplacer le mât du navire qui a été brisé par la tempête. Et puis, il sert de bouillotte géant quand il fait froid le soir. Ils viennent tous se serrer contre lui, parce que vous savez qu'un dragon, hein, ben c'est chaud à l'intérieur. Hein. Donc, mais il a honte d'être un dragon. Il a honte de certaines tendances qui sont en lui. Par exemple, il ne peut pas s'empêcher de manger de la viande crue. Ah, il attrape une chèvre, puis il la dévore comme ça, devant tout le monde. Il a fait ça une fois devant les autres, les gens, ils l'ont regardé d'un air comme ça. Alors, résultat, c'est que, surtout qu'en plus, eh bien, il avait dévoré le vieux dragon, vous savez, quand il était... Enfin, c'était vraiment... Alors, il a honte, il a vraiment honte de ça, puis il va se cacher pour manger, etc. Il réalise aussi qu'il est une gêne pour les autres, parce que... Ceux-là se demandent, mais comment est-ce qu'on va le transporter pour repartir? Parce que le navire n'est pas bien grand. Hein. Alors, ils sont en train de calculer, on pourrait le faire coucher le long du mât, etc. Mais enfin, c'est compliqué. Et donc, il est le soir profondément malheureux. Il pleure à chaudes larmes, voilà. Et vous avez un profond changement intérieur qui déjà s'opère en lui. Et c'est là qu'intervient Aslan. Aslan, c'est le grand lion, hein, qui arrive le soir, dans la nuit, alors qu'ils étaient endormis, tout tristes, hein, donc endormis de chagrin, sur la plage. Et là, dans cette lumière irréelle, Aslan arrive et il lui fait signe de le suivre. Il ne lui dit rien. Et puis il l'emmène à l'intérieur de l'île et il le fait marcher longtemps, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un merveilleux bassin de marbre qui est là. Et là, vous avez une eau cristalline, une eau pure, et scintillante qui est là, et il réalise, il se dit, mais cette eau, ça va me faire du bien, combien je voudrais me baigner dans cette eau. Mais Aslan dit, mais non, tu ne peux pas te baigner comme ça, regarde ta peau, ouais, c'est vrai que c'est moche une peau, hein, une peau de reptile, hein. Ouais, donc, alors, comme tout reptile, il faut qu'il change de peau, hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dépouille de sa peau superficielle. Et il la voit après à côté de lui, laide, morte, là, comme ça. Il va aller dans l'eau, mais Aslan lui fait remarquer, mais regarde ton autre peau, elle est laide aussi maintenant, celle qui est là. Alors, avec bien des efforts, il se débarrasse de cette deuxième peau. Et puis voilà que de nouvelle peau apparaît, qui n'est pas plus belle que la précédente, que les précédentes. Alors il se désespère. Alors Aslan lui dit, est-ce que tu veux que je te les habille moi-même? Alors... À bout d'effort, eh bien, Eustace le dragon se couche le ventre par terre, à plat, les quatre pattes en croix, comme cela, voyez-vous. Et puis, Aslan arrive au-dessus de lui et d'un coup de griffe profond, il fait une entaille plus profonde que ce qu'il n'aurait jamais osé lui-même. Et il lui arrache plusieurs peaux épaisses. La douleur est grande et après il le prend. Hein, parce qu'il est, les peaux qui disparaissent, il est devenu beaucoup plus petit. Hein, et il le prend dans sa gueule et il le jette dans l'eau. Et là, il a l'impression que cette eau le brûle, qu'elle l'écorche, qu'elle le meurtrit partout dans un premier temps. Mais ensuite, d'un seul coup, ça part. Et alors, quel bienfait. Et alors, quel bien-être. Quelle douceur. Quelle sensation délicieuse, ineffable. Il se sent tellement mieux qu'il ne s'est jamais senti. Et puis finalement, le lion va le ramener sur la plage, parce qu'entre-temps, il a repris son apparence humaine. Hein. Donc évidemment, parce qu'il va reprendre contact avec ses compagnons, il est complètement changé. Hein. Donc surtout, il est profondément et admirablement changé à l'intérieur de lui-même. Et il va devenir un élément tout à fait utile et précieux dans l'équipage dès ce jour et dans la suite, voyez-vous. Et cette image-là, si on veut bien réfléchir un petit peu, ça peut nous aider à comprendre. Hein, Aslan, notre Aslan, le lion de la tribu de Juda, C'est celui qui veut faire cette œuvre en nous. Vous savez, nous, on peut essayer de se dépouiller par nos propres forces. Hein. On fera faire qu'un peu quelque chose, je ne veux pas dire, mais ce sera toujours superficiel. Il faut que ce soit le Seigneur qui fasse le grand travail. Et il veut le faire. Hein. Il veut le faire si nous venons à lui. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est vrai, est-ce qu'on veut vraiment avoir une conversion selon Dieu ? Hein, c'est ça la chose. Est-ce qu'on veut vraiment passer par une vraie nouvelle naissance ? Est-ce qu'on croit qu'on a ce besoin ? Hein, pas que ce n'est pas juste une option qui est pour certains, peut-être d'autres autour de nous. Oui, certainement, ils ont ce besoin. Mais que c'est pour moi-même, hein, pour nous-mêmes, chacun. Est-ce qu'on réalise là ? Est-ce qu'on comprend ? Est-ce qu'on réalise qu'on ne va pas y arriver tout seul ? On ne va pas y arriver par nos propres forces. Est-ce qu'on croit que seul le Seigneur peut faire ce miracle immense et tous les autres miracles aussi qu'il faudra dans la suite ? Est-ce qu'on veut vraiment venir à lui pour que cela puisse s'accomplir ? Le Seigneur dit, si vous ne naissez de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais par le Saint-Esprit, par la puissance du Seigneur, cette œuvre merveilleuse, il veut l'accomplir. Amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Béni sois-tu pour ton grand amour. Béni sois-tu pour ce désir puissant qui est le tien. Et c'est vrai que quand Nicodème est venu, eh bien, tu n'as pas perdu ton temps à discuter sur les miracles, etc. Mais tu lui as immédiatement parlé du sujet central, du grand besoin pour sa vie. Il avait lui aussi besoin de naître de nouveau. Pourtant, c'était quelqu'un de bien humainement. Mais il avait ce besoin, tout autant que quiconque. Et merci notre Sauveur, parce que c'est de cette manière aussi que tu agis pour sauver, aujourd'hui encore, ceux qui veulent se tourner vers toi. Béni sois-tu pour l'œuvre de grâce et de puissance que tu veux opérer dans les cœurs et dans les vies. L'œuvre de transformation profonde, l'œuvre de transformation du cœur, l'œuvre de transformation intérieure. Merci notre Dieu pour l'œuvre de délivrance que tu opères aussi, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu parce que tu es le Sauveur Tout-Puissant et parce que tu agis encore pour cela. Et si parmi nous il y a quelqu'un qui a ce désir,